Tonight, Tonight, voilà pour les Hot Chili Peppers sur CFM. C'est l'heure maintenant d'aller cueillir les champignons.
Bah oui, avec cette douceur et cette pluie fine qui continue de s'abattre sur notre région, eh bien, je me dis que ça peut être propice quand même à l'érection des champignons. Mais je me trompe peut-être, en fait, parce que j'ai jamais été très bon chercheur de champignons en voiture, Aurélien. Moi, je suis toujours complètement planté, même quand j'y allais avec des copains qui, eux, ramenaient des pleins plateaux de cèpes ou de trompettes de la mort. Ben, moi, c'était généralement une vieille trémoule qui était toute bouffé par les vers.
Moi, j'ai toujours ramassé des champignons blancs qui traînaient sur les troncs d'arbres. C'était pas les bons.
Ouais, c'est jamais les bons. Voilà. Donc.
Mais je pense que c'est la fin quand même de la cueillette aux champignons, là.
Eh ben, écoute, on va poser la question à des gens qui s'y connaissent drôlement, puisqu'il s'agit de Daniel Lacombe, président de la Société mycologique du Périgord, et Jean-Jacques Daube, qui en est membre. Il faut savoir qu'il y a quelque 250 adhérents à cette Société mycologique. Messieurs, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur CFM Radio pour parler de ce qui doit être pour vous quand même une passion, hein, puisque vous êtes membre de cette société mycologique. Pour répondre de suite à la question que vient de poser Aurélien, c'est la fin de la saison des champignons ou on est en plein là ?
Disons qu'on est encore en plein parce que depuis quelques années, on remarque que la saison des champignons a tendance à s'étaler un peu plus dans le temps et plus tardivement. Et pour donner un exemple, l'année dernière, c'est tout à fait en fin de saison qu'on a eu des sorties mycologiques avec le plus d'espèces. Et cette année, autant septembre a été relativement sec, donc il n'y a pas eu beaucoup de champignons, autant octobre, ça a commencé donc les poussées, et puis novembre est un mois pour l'instant assez fabuleux au niveau des champignons.
Voilà, donc c'est Daniel Lacombe qu'on vient d'entendre, président de la Société mycologique du Périgord. Alors justement, vous faites souvent des sorties avec votre société ?
Alors, nous en faisons en fait depuis début septembre jusqu'au début décembre, le week-end, mais aussi parfois en semaine, notamment pendant les vacances de Toussaint, parfois aussi le mercredi. Donc en gros, on fait presque 40 sorties, alors aussi bien sur la Dordogne, mais également sur le Lot, puisque cette année, nous sommes allés 4 fois dans le Lot, et la dernière fois, c'était dimanche dernier à Alvignac, où chose extraordinaire pour Alvignac, où souvent, on avait 30, 40, 50 espèces. Cette fois-ci, on est arrivé à dépasser les 100 espèces de champignons.
Quand vous cueillez ces champignons, vous vous cantonnez aux champignons comestibles ou bien vous faites une collecte de l'ensemble des champignons que vous trouvez ?
Alors en fait, on cueille tous les champignons pour après pouvoir les identifier, alors aussi bien les comestibles que les toxiques. Et puis l'intérêt, c'est d'expliquer aux personnes qui participent à la sortie les différences qu'il y a entre certains comestibles et certains toxiques. Donc leur montrer les caractères d'une espèce de façon à ce que les personnes présentes arrivent à reconnaître après dans les bois ces espèces-là.
Alors, Jean-Jacques Daube, vous êtes responsable bibliothèque au sein de votre société. Lors de vos dernières sorties aux champignons, quelles ont été vos plus belles trouvailles ?
Oh, des trouvailles, on en a pratiquement à chaque sortie. Mais moi, mon rôle principal consiste surtout à assurer la permanence au siège social de la société qui se situe à Chanterac, à, bon, on va dire, une trentaine de kilomètres à l'ouest de Périgueux. Et les trouvailles pour nous, on va dire mycologues endurcis, ça consiste surtout à trouver des cortinaires encore méconnus pour la plupart des 250 membres de la Société mycologique et même de tous les mycologues de France, de tous les adhérents. Les cortinaires représentent la plus grosse difficulté pour établir une détermination correcte de ces espèces-là.
Alors vous venez d'employer un mot un petit peu savant, Jean-Jacques Daube. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de ce que c'est exactement ? J'arrive même pas à le redire, ce mot. C'est quoi ?
Ça paraît une évidence pour nous. Si vous voulez, les champignons sont la classification des champignons. Elle a été faite de ce qu'on appelle la classification linéelle, monsieur Linné. C'est un monsieur qui a décidé de classer tout le monde du vivant. Donc il y a un nom de genre et ensuite le nom de l'espèce, un peu comme nous. Nous nous appelons Homo Homo sapiens. Donc, dans le cas que je vous ai cité, le cortinaire, c'est un champignon à lamelles, avec des lamelles qui deviennent à maturité rouillées. Et il a cette particularité aussi, c'est que il a sur le pied, il n'a pas d'anneau, mais il a une espèce de, on va appeler ça des filaments, qui représentent un peu comme sur une amanite phalloïde qui va représenter l'anneau. Et ces champignons-là, ils ont aussi, on va dire, ils sont un peu attirés, la plupart des membres de la société sont aussi attirés par les cortinaires, du fait que les cortinaires représentent aussi une bonne partie de champignons toxiques, voire mortels.
Ouais, alors que nous, on est plutôt attirés par les cèpes hein, et les trompettes de la mort, qui n'ont de mortel que le nom, d'ailleurs.
Voilà. Alors, il faut dire aussi que l'intérêt d'une société mycologique, c'est que on aurait tendance maintenant à spécialiser chaque personne dans un genre particulier. Et ça nous permet justement de nous enrichir de connaissances de manière à ce qu'on puisse ensuite divulguer toutes ces connaissances aux autres membres de la société mycologique.
Alors, qu'est-ce qui fait, excusez-moi, je vous coupe, mais parce que je voudrais arriver à évoquer tellement de questions avec vous, il faudrait qu'on ait 2 heures, mais ça sera pas possible. Qu'est-ce qui fait en fait qu'un champignon pousse au bout du compte? Souvent ici, on dit qu'il faut qu'il ait fait stress sec, après qu'il ait plu, et attendre 10 jours, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose comme ça?
Il y a rien d'établi absolument, mais une chose est sûre. En plein désert, vous trouverez très 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 peu de champignons. Donc là, une chose est déjà certaine, c'est qu'il faut de l'eau.
Oui. De l'eau. Alors, et de la douceur.
Il faut de l'eau. Ah oui, parce que je pense pas qu'on puisse trouver des champignons en Antarctique ou dans l'Arctique. Et à mon avis, voilà, je pense qu'il y a une troisième règle aussi, c'est que ce qu'on appelle le substrat ou le terrain, comme pour les vins, le terroir a son importance. Donc il faut le terrain qui s'y prête, il faut la température, et ensuite il faut de l'eau. Et on va dire par exemple pour les amanites, toutes les amanites sont des champignons qui vont pousser dans les forêts. Donc il faut des arbres.
Ouais. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus vraiment branché par les champignons toxiques que par les champignons comestibles. Est-ce qu'il vous arrive de vous faire une bonne omelette au cèpe quand même de temps en temps?
Alors, erreur grave, parce que chez les amanites, on a tout de même ce qu'on appelle le champignon des rois et le roi des champignons qui est l'amanite des Césars et qu'on appelle aussi l'orange. Et l'orange, c'est un champignon qui est très très recherché. Moi, je sais que même chez nous, on a des gens qui... Bon, évidemment, ça va être sacrilège ce que je vais dire, mais en Dordogne, il y a des gens qui n'aiment pas le cèpe, il y a des gens qui vont préférer l'orange, qui vont préférer beaucoup de champignons à lamelles, notamment l'amanite vineuse, qui est un champignon qui est délicieux et qu'il faut surtout bien cuire parce qu'il contient des substances qui sont hémolytiques, c'est-à-dire qui seront détruites à 70 degrés, et qui peuvent détruire les globules rouges du sang.
Ah ouais, faut faire quand même assez attention. Daniel Lacombe.
Pas du tout. Quand vous mangez quelque chose, généralement, si vous chauffez votre plat, vous allez dépasser les 70 degrés. Donc, vos champignons doivent être bien cuits. C'est impératif, ça.
Ouais.
Alors, paradoxalement, la manite des Césars, on peut la manger crue. Vous voyez, c'est très complexe.
Ouais. Est-ce qu'il y a une saison pour les champignons comme il y en a pour les fruits? Est-ce qu'il y a plutôt le champignon de septembre, d'octobre, de novembre? Ou bien est-ce que quand il pousse finalement un champignon, un rosé des prés, on sait qu'il va y avoir aussi des oranges, des amanites tumouches, des cèpes et tout le reste?
Voilà, ça c'est juste.
Alors, peut-être Daniel Lacombe?
Daniel, voilà.
Disons qu'il y a certaines espèces qui poussent qu'au printemps, c'est le cas par exemple de la morue ou du mousseron de la Saint-Georges, parmi les plus connus. Et après, il y a des champignons qui sont, on va dire, plutôt thermophiles, c'est-à-dire qui aiment beaucoup la chaleur, qui vont pousser en été. Alors, ça peut être le cas de l'orange, même si l'orange peut pousser aussi en automne, si l'automne est doux, ce qui est le cas cette année, puisqu'on a encore trouvé des oranges au mois de novembre. Et puis après, dans les cèpes, par exemple, il y a un cèpe qui est plus précoce, qu'on appelle le cèpe d'été, et par contre, le cèpe de Bordeaux a tendance à être un petit peu plus tardif. Alors les rosés des prés, on peut en trouver aussi bien en été qu'en automne. Et puis après, il y a d'autres espèces qui sont plus tardives. Alors on pense au pied de mouton parmi les plus connus, on peut penser à la trompette de la mort, on peut penser au pied bleu aussi, au petit gris, qui est la famille des pécans terreux, qui sont de très très bons comestibles, mais qui poussent souvent plus tardivement, novembre, voire décembre.
Alors pour vous, Daniel Lacombe, le roi des champignons, c'est lequel ?
À moi, je vais mettre en premier le petit gris, justement. Parce que je trouve que le tricôme terreux a vraiment un goût très très agréable. Il y a bien sûr le rose aussi, on peut classer le rose. Après, il y a un champignon qui est méconnu, qui s'appelle Hygrophore de l'office, qui pousse en terrain calcaire sous les feuillus, et qui est aussi un très très bon comestible. Ah, donc c'est vrai qu'on peut être mycologue et aussi aimer les champignons, et c'est vrai que c'est tout à fait agréable de manger aussi une tarte aux champignons avec de nombreuses variétés de champignons. Même si par ailleurs on les étudie en tant que mycologue, voilà.
Et pour avant de les étudier ou de les manger, il faut aller les chercher. Est-ce que vous avez une astuce, Jean-Jacques Dob, pour quelqu'un qui, comme moi, n'arrive jamais à ramener quoi que ce soit dans son panier à champignons?
On va vous envoyer un bulletin d'adhésion, vous allez voir.
Non, mais vous avez un bâton, vous retournez les feuilles ou des choses comme ça. Il y a des choses à savoir quand on va.
Oui, absolument, mais ça va dépendre. Vous savez, quand on fait une sortie, on est à peu près une vingtaine, une trentaine. Et bon, c'est pas Attila et Léa, hein. On laisse toujours. On apprend aux gens à ramasser les champignons, à respecter la nature. On a surtout un rôle un peu écologique quand même. Et le fait de retourner les feuilles, oui, on le fait, surtout en ce moment pour les pieds de mouton, parce que le pied de mouton, il a cette particularité, c'est qu'il va rarement pousser tout seul. Alors si par un heureux hasard, vous allez tomber sur un pied de mouton, parce qu'il va être un peu plus gros que les autres, il va donc réussir à écarter les feuilles, il faut impérativement rester sur le coin, et vous êtes sûr que vous allez trouver d'autres pieds de mouton. Ça, c'est déjà une des bonnes méthodes. C'est vrai qu'il faut toujours un bâton avec soi pour pouvoir fouiller un petit peu les surtout en cette saison-là. On est au mois de novembre, toutes les feuilles sont pratiquement par terre, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de difficultés. Ou alors, il faut aller sous les pins. Et sous les pins, on a un peu plus de facilité pour les trouver si on a un tapis d'aiguilles qui recouvre le sol. Donc, c'est beaucoup plus accessible au regard des mycologues et des mycophages.
Vous m'avez vraiment donné envie d'aller me promener dans les bois et je vais peut-être faire ça ce week-end finalement, et j'espère bien trouver quelques oranges alors du coup, hein, puisqu'il y en a sur le tard là.
Oui, mais nous n'acceptons que les 24 hein, en immatriculation.
Merci en tout cas d'avoir accepté d'être avec nous sur CFM Radio pour parler de ces cueillettes de champignons. Je rappelle donc que vous êtes membres tous les deux, Daniel Lacombe en étant le président, de la Société mycologique du Périgord et que vous êtes basé à Chanterac. Hein, c'est ça.
Voilà. Et même si on va dans le Lot et on y va donc plusieurs fois dans l'année aussi, donc puisque Lot n'a pas de société mycologique. Mais sans aller jusqu'à l'Andordogne, vous pouvez quand même chercher les champignons à la forêt de Montèche, qui est quand même plus proche que le Périgord depuis longtemps. Bon.
Oui, mais chez nous, ils nous attendent à chaque fois avec des fusils. Là, ils veulent plus qu'on aille dans les bois, les gars. Non, j'ai blague.
Je suis né à Montauban, donc c'est pour ça que je connais un petit peu le coin.
Ah non, mais voilà. C'est où Aurélien là qu'à chaque fois
À Veissac.
C'est à Veissac, voilà, la capitale du cèpe. À Veissac, c'est dangereux quand même dans les bois hein, quand il y a les cèpes. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Lacombe, et vous aussi, donc Jean-Jacques Dob. Merci à vous, au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, 17h30, 19h, à Kiltour, la vie des pays.
Tu vois, on me reproche des fois de faire du montalbanisme. Mais là, on est allé chercher quelqu'un en Dordogne. Et il est montalbanais. Mais moi, j'y peux rien, c'est comme ça.